RCF.
Une soirée qui se poursuit à 18h10 avec le 18-19 en région. Nous retrouvons Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
En direct, le magazine régional. Avec vous, Alexis, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Pierre. Heureux de vous retrouver. Comment ça va?
Écoutez, ça va très bien.
Vous étiez en escapade hier.
Une petite escapade à Paris.
Ça s'est bien passé? Vous n'étiez pas perdu?
Non, mais vous savez, un Ardennais à Paris, c'est comme Monsieur Hulot qui fait ses vacances.
Hein. Il faut savoir que vous n'y étiez pas pour des vacances, justement, Jean-Pierre, mais pour une réunion de travail avec les directeurs et les présidents de RCF.
Avec les présidents, les directeurs n'étaient pas là. C'était les présidents des radios RCF en France.
Eh bien, ça, c'était pour le programme de Jean-Pierre, mais il y a un programme de magazine régional ce mercredi aussi.
Absolument, et on a nos invités habituels. On a bien entendu Robert Auverger, bonsoir. On va vous retrouver, Robert, dans un instant.
Bonsoir, Jean-Pierre.
Bonsoir, Robert. Fernand, bien entendu. Fernand Tavares, bonsoir. Il se passe beaucoup de choses à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous êtes en pleine actualité. Il y a des empoignades.
Il y a des empoignades terribles. Toute cette affaire, loi sur l'immigration, vous avez été pour, pas contre, le RN, les Républicains, les socialistes, la bagarre au sein du gouvernement entre la Première ministre issue du Parti socialiste et ses anciens copains du Parti socialiste. Rien ne va plus.
Et puis, nous avons également Kylian qui est avec nous.
Bonsoir.
Kylian, merci, toujours dans notre stage. Et puis, un autre, d'autres rendez-vous.
Effectivement, un maire qui vous parle, Jean-Pierre, ce sera d'ici quelques minutes. C'est Franck Jacquet, maire de Chenay, qui sera avec vous, Jean-Pierre. Et comme je sais que vous aimez bien annoncer ce genre de rendez-vous, parce que c'est quand même un rendez-vous important, il y a Benoît Carrier, qui est maire de Aubencourt-Vauzelles, qui sera votre invité demain, jeudi. Et Nadine Poulain sera avec nous vendredi.
Oui.
Elle est maire de Jonchery-sur-Velle.
Exactement, Nadine Poulain, Jonchery-sur-Velle, donc dans la Marne. Et demain, c'est effectivement Benoît Carrier, maire d'Aubencourt-Vauzelles, dans le département des Ardennes.
Vous aviez tout cela sur votre agenda, Jean-Pierre, bien évidemment. La suite de ce magazine régional, ce sera aussi avec Laurent Devie, qui nous présentera une crèche vivante. Le rendez-vous, c'est samedi.
Ça, c'est assez intéressant, mais il y en a quand même.
On en présentait une hier, on avait promis qu'on ira à Charleville-Mézières aujourd'hui.
Oui, absolument. Mais il y a un rendez-vous, place du Cal, à la statue de Gonzague. On descend la rue piétonne, on est sur le marché de Noël et on va vers l'église Sarmie. Il y a du chocolat chaud. Donc ça fait partie aussi des gens de RCF, petits ou grands. Ça, c'est un bon rendez-vous pour nous.
Le rendez-vous pour la parade, c'est à partir de 15h et le rendez-vous, si on se rend directement à l'église Saint-Rémy samedi, c'est plutôt à partir de 16h, le temps que la parade arrive tranquillement.
Absolument. Alors, il y a des gens qui sont déguisés. Il y a même Laurent Devie dont vous parlez, qui est déguisé en chamelier. Je lui ai demandé s'il avait un chameau. Il y a un âne qui sera là, mais de chameau, il n'y en a pas. Il est en carton. Alors, il ne monte pas dessus.
À noter que cette mobilisation, cette manifestation est organisée en partie avec les associations familiales catholiques. Et c'est l'occasion de raconter un petit peu ce qu'il se passe à la radio, parce qu'on a eu de la visite aujourd'hui, Jean-Pierre, des AFC de Reims qui sont venus avec des enfants, des jeunes.
Absolument, puisque les associations familiales catholiques sont venues. C'est vous qui avez fait la présentation. Et on parlera aussi d'Alliance Vita. C'est une autre organisation proche des AFC. Ce sera lundi avec Madame Marie Paillard qui sera avec nous.
Voilà pour le programme de ce magazine régional et des jours à venir. Mais pour l'heure, à 18h14, Jean-Pierre, vous reprenez la main avec Robert Auverger, notre chroniqueur, qui est là avec son mot du jour.
Alors, rebonjour Robert, pour celles et ceux qui nous prennent tout de suite. On dit deux fois bonjour, mais mieux vaut deux fois qu'une. On est poli, hein,
chez RCF. Oui.
Alors, aujourd'hui, en un mot, c'est le mot...
Délinquance.
Délinquance. Hein, vous êtes en pleine actualité, dites-moi Robert.
Ben, j'essaye.
Alors, un mot souvent entendu dans les médias en ce moment pour qualifier toutes sortes d'infractions. Est-ce que c'est un mot récent, le mot délinquance?
Oui, c'est un pur produit, si l'on peut dire, du XXe siècle.
Alors, qu'est-ce qu'on disait avant? On ne disait pas délinquance?
Eh bien non, avant, on employait un mot à la fois adjectif et nom, c'est-à-dire délinquant. Ce mot s'appliquait surtout aux auteurs d'infractions relativement légères et non, comme souvent aujourd'hui, à des actes graves ou commis avec violence.
Alors, quel mot s'appliquait alors aux auteurs des fautes les plus graves?
Ben comme aujourd'hui, criminel.
Alors, comment définissait-on alors un délinquant?
Eh bien, était qualifié de délinquant celui qui commettait un délit. Notons d'ailleurs que délinquant, délit ou encore délictueux ont la même racine latine. Ils viennent d'un verbe, délinquere, qui signifiait faillir, excusez-moi, et qui avait donné le verbe français délinquer. Aujourd'hui, nous sommes contraints de dire commettre un délit car nous ne pouvons plus délinquer. C'est un verbe qui a disparu de notre vocabulaire.
Et c'est-à-dire que ce verbe délinquer, il a existé en français à une certaine époque ?
Oui, oui, au XIXe siècle, on pouvait dire à propos d'une personne qui avait commis un délit, en quoi a-t-elle délinqué ? On le trouve par exemple sous la plume de Chateaubriand.
Alors comment a évolué ce mot délinquant jusqu'à nos jours ?
Eh bien, il y a quelques décennies encore, on ne parlait de délinquance que pour des infractions qui ne violaient la loi que peu gravement, sans violence et sans intention malveillante, ce que nous appelons aujourd'hui des contraventions. On parle parfois alors de délinquance, d'imprudence, par exemple griller un feu rouge ou rouler en état d'ivresse. Aujourd'hui d'ailleurs, le mot délinquance ne fait pas le détail, il comprend aussi bien les crimes ou les délits graves, financiers par exemple. On dit alors la grande délinquance que les délits correctionnels.
Robert Auverger, vous nous avez cité trois types d'infractions, la contravention, le délit et le crime. Pouvez-vous nous préciser leur définition et d'abord celle de la contravention ?
Oui, nous n'entrerons pas trop dans les détails, tant les questions judiciaires peuvent être complexes. Disons que la contravention est la moins grave des trois infractions.
Alors, par exemple, une contravention, vous avez quelques exemples ?
Ben oui, par exemple, des menaces de dégradation, une dégradation légère d'un bien, des violences légères.
Alors, dans ces cas-là, quelles sont les sanctions possibles ?
Eh bien, les sanctions sont prononcées par le tribunal de police et les délinquants risquent, selon la gravité de la contravention, une amende de première classe d'un montant de 38 euros à une amende de cinquième classe d'un montant de 1500 euros, voire 3000 euros en cas de récidive. Alors, la contravention n'entraîne pas de peine de prison, mais elle peut entraîner des peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire ou encore l'interdiction d'émettre des chèques. Et il faut noter aussi que le délai de prescription, à savoir le délai pendant lequel une infraction peut être poursuivie, est alors d'un an.
Alors, qu'en est-il après la contravention ? Qu'en est-il du délit ?
Eh bien, le délit est d'une gravité moyenne, si l'on peut dire, entre la contravention
c'est
et le crime.
C'est intermédiaire.
Voilà.
Entre la contravention et le crime.
Voilà. Voilà. Le délinquant, auteur d'un délit, devra se présenter, lui, devant le tribunal correctionnel.
Quelques exemples de délits par rapport à la contravention ?
Oui, des abus de biens sociaux, des vols, des harcèlements moraux, des attouchements sexuels, des homicides involontaires.
Alors, quelles sont les sanctions et les peines complémentaires encourues en cas de délit ?
Eh bien, le délinquant sera alors passible d'une amende de 3750 euros et d'une peine de 2 mois à 10 ans de prison. Quant aux peines complémentaires, ce peuvent être des stages de citoyenneté, des travaux d'intérêt général ou des injonctions de soins.
Quel est, en cas de délit, le délai de prescription ?
6 ans.
Troisième sorte d'infraction, la plus grave, le crime.
Oui, bien sûr. Le délinquant, alors, sera jugé par la cour d'assises.
Quelques exemples d'infractions criminelles ?
Principalement les meurtres et les viols.
Les sanctions et les peines complémentaires encourues ?
De 15 ans à la perpétuité, les peines complémentaires sous forme de contraintes sont diverses, interdictions diverses, confiscations, injonctions de soins, etc.
Les délais de prescription ?
20 ans, qui peuvent être portés à 30 ans pour certains crimes considérés comme particulièrement graves, comme le terrorisme, le crime sexuel sur mineurs ou la traite des êtres humains.
Eh bien écoutez, là on est plein d'actualité, mais là on a fait le tour et un tour d'horizon sur des questions qui sont quand même pas très gaies,
hélas,
mais qui existent,
hélas,
et qu'on rencontre, hélas, dans l'actualité. Alors bien évidemment, la question à chaque fois, Robert, et la semaine prochaine, vous serez avec nous, mais quel mot allez-vous mettre en valeur ?
Eh bien, en droite ligne du mot d'aujourd'hui, nous parlerons de justice.
Eh bien oui, ben c'est la suite logique. Après les délinquants, les contraventions, les délits, et bon, tout cela, il y aura la justice.
Voilà.
Merci Robert Auverger. Très très bonne
Merci
semaine,
à vous.
Robert. Et à très bientôt sur RCF, 18h19.
Le 18-19 sur RCF.
Une horloge dans le ventre pour Jean-Pierre, avec un maire avec nous au téléphone ce soir pour nous parler. Jean-Pierre, vous savez qu'on vous en entend, même quand vous faites des mimes comme ça à travers le micro. Je
oui,
le dis parce que nos auditeurs captent des bruits et se demandent ce qu'il se passe.
Quand vous dites une horloge dans le ventre, je pensais que vous mettiez en avant quand même le fait que je ne sois pas forcément très mince.
Ah non, mais ça c'est... Moi, vous savez Jean-Pierre, ça ne fait que... Vous, ça ne regarde
je,
que vous.
Je vais faire un régime. Je
ne suis pas sûr que ce soit la bonne période. C'est
Fernand
pas la période la plus appropriée.
Il fallait que je fasse un régime, Fernand.
Une caisse de résonance.
Une caisse de résonance au micro. Eh bien, c'est l'occasion pour nous
de
voir la suite
maire,
des programmes.
Qui,
Alexis.
Qui est en ligne d'ailleurs, qui nous attend, qui entend nos bêtises. Un maire avec nous au téléphone ce soir pour nous parler. C'est Franck Jacquet qui est l'édile de Chenay avec vous.
Franck Jacquet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez, de façon très générale, nous présenter un peu la commune de Chenay, à quelques kilomètres de Reims?
Oui, écoutez, volontiers. La commune se situe donc au nord-ouest de Reims, sur le massif de Saint-Thierry. Donc, elle est exposée plein sud. Elle offre un cadre de vie très agréable. La commune est entourée de vignobles, de forêts et d'étangs. Donc, on a un cadre de vie plutôt très agréable. Nous avons beaucoup d'écrits également sur la commune, donc ce qui nous permet de connaître son histoire et de préserver son patrimoine. Donc, il y a des sources ferrugineuses, il y a beaucoup de sources. On a quelques livres anciens également qui nous permettent également d'avoir découvert récemment l'origine des sources ferrugineuses qui étaient réputées pour et guérisseuses pour les rois de France. Voilà.
Alors, Franck Jacquet, vous qui êtes maire de la commune, maire de Chenay, vous êtes maire depuis combien de temps? Est-ce qu'on peut dire quelles étaient vos motivations? Est-ce que c'était un peu dans votre ADN? Vous avez dit, bon, c'est quelque chose qui vous a intéressé depuis un certain temps. Il y a des fois, c'est comme ça.
Bon, la commune, donc, elle compte environ 270 habitants aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré le village dernièrement. Il y a eu beaucoup de renouvellement, donc on a beaucoup d'enfants et ça c'est pour le plus grand bonheur de la commune. Et je suis maire depuis 3 mandats. Et alors la question de savoir si c'était dans mes ADN, etc. Non, j'étais maire par accident suite à une démission du conseil municipal de l'époque. Donc ce qui est motivant dans la fonction, c'est de pouvoir orienter et de façonner sa commune dans le futur. La difficulté, vous le savez très bien, hein, c'est parfois de faire comprendre que l'intérêt général n'est pas toujours la moyenne des intérêts personnels.
Absolument. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit, Franck Jacquet, les habitants, il y a des jeunes, peut-être, après le Covid, il y a des gens qui, on n'est pas très loin de Reims, c'est une belle commune, il y a un bel environnement, ça attire aussi ça.
Oui, alors on bénéficie parfois justement de cette image et on est parfois un peu envahi aussi, donc ça fait un peu c'est la rançon de la gloire et c'est un succès qui des fois coûte cher aussi parce que c'est vrai que aujourd'hui il faut gérer également cet afflux de visiteurs, de promeneurs, de sportifs, parce qu'il y a beaucoup de sportifs sur la commune. Il faut gérer les propriétaires forestiers qui ont un afflux de gens qui passent dans leur domaine privé, tout ça. Donc c'est vrai, c'est un peu compliqué. Et le Covid a renforcé cela parce qu'à l'époque, malheureusement, il y a eu une communication comme quoi Chenay était un peu l'Eldorado par rapport à cela. Et aujourd'hui, on en souffre un petit peu. Voilà.
Alors, un maire est souvent sollicité. D'ailleurs, il y a même des maires qui s'interrogent hein, parce qu'ils se disent c'est beaucoup de responsabilités. C'est vrai que vous êtes quand même très sollicité. Il faut le reconnaître.
Oui, on est très sollicité. Alors, la fonction est effraie parfois. Par contre, l'impartialité doit être votre leitmotiv. Malgré cela, si vous ne prenez pas parti pour l'un ou l'autre, les gens peuvent des fois vous en vouloir. Donc, c'est toujours un peu difficile. Il faut savoir dire non, et dire non, c'est plus difficile que dire oui. Donc c'est pour cela que des fois, c'est important d'être aussi bien entouré dans son conseil et d'avoir des décisions prises collégialement. Alors, c'est plus simple.
Franck Jacquet, à Chenay, vous êtes le maire. Est-ce que vous êtes beaucoup de maires disent on est encore quand même, d'une certaine façon, le patron de chez soi. Mais c'est vrai qu'avec le Grand Reims, avec les communautés de communes, c'est plus tout à fait pareil. Mais quand même, le maire, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on respecte, dans un village, dans une commune.
Oui, et heureusement qu'il est encore patron chez lui, et je dirais, et non parfois, les prises de décision sont plus longues qu'avant, le temps administratif n'est pas celui de l'opérationnalité, hein, ça c'est clair, le maire est le patron chez lui, il doit se conformer aux règles de l'intercommunalité, c'est un combat avec les commissions de l'intercommunalité, mais il ne faut rien lâcher. Il peut y avoir des crispations, c'est normal, mais on doit défendre ce qu'on appelle le bout de gras. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le maire, on arrive à faire comme beaucoup de choses chez soi. Nous, on a développé quand même beaucoup l'activité commerçante dans la commune. Hein. Aujourd'hui, on a un restaurant qui est très réputé, on a un restaurant à Tisse qui est extraordinaire, on a des petites bijouteries artisanales, les aiguilles de Janine, on a une artiste qui fait également des faits miniatures, My Sweet Ferry, on a également un institut de bien-être, Évasion Champenoise, on a un microbrasseur, prochainement un café. Donc tout ça, je dirais, c'est pas le maire qui fait tout ça, faut être très clair, mais c'est néanmoins l'action de la commune et l'attractivité de la commune qui permet quand même tout cela. Et toutes ces petites entreprises font vivre un village.
Alors, il faut dire, monsieur le maire, que vous avez des demandes, des requêtes, des questions. Alors, parfois des questions assez individuelles, mais parfois individualistes, qui sont formulées par les administrés. On demande pour soi, c'est normal, d'une certaine façon.
Ouais, alors en majorité, c'est des demandes sur les règles d'urbanisme. Alors les entreprises ne jouent pas non plus toujours le jeu avec leurs clients. Les règles sont établies, elles sont écrites, elles sont là. Le problème, certains veulent les contourner ou ne pas s'embêter avec les CERFA et les documents. Dans tous les cas, l'expertise du Grand Rhin, c'est la BF pour notre cas, est d'un très grand réconfort. Ça nous permet aussi d'asseoir nos réponses par rapport à des gens qui ont l'expertise. Après, il faut perpétuellement rassurer les Chenois. Les lois et les décrets sont là et nous tombent dessus un peu parfois. Donc les LNT, l'agribashing, tous ces points-là, c'est quand même des sujets qu'il faut également rassurer. Il faut rassurer des fois les vignerons, il faut rassurer également le monde un peu paysan, parce qu'aujourd'hui, même le monde paysan se fait quand même agresser dans nos campagnes. Hein. Aujourd'hui, même si vous êtes un paysan bio sur un tracteur avec un masque, vous allez vous faire incendier parce que vous mettez un produit dans un champ. Aujourd'hui, on est quand même sur beaucoup de raisonnées, mais c'est vrai que on a aujourd'hui un conflit qui s'instaure entre le monde bien-pensant et le monde agricole. Il faut absolument défendre ce monde agricole dans nos campagnes.
Franck Jacquet, je vous interromps un peu parce qu'il nous reste seulement 2 minutes, ça va très vite. Est-ce que vous avez des projets en cours à plus long terme à Chenay?
Oui. On a des projets. On vient de lancer la phase de biodiversité. On a également une réflexion sur la protection de la vidéosurveillance, la réflexion de la toiture, gérée de notre salle des fêtes, ainsi de suite. Mais on a plein de projets, ça c'est clair.
Alors, mère et vie professionnelle, c'est pas facile à conjuguer. Mère et vie familiale non plus. C'est, tout faire en même temps, c'est pas simple. Il nous reste 1 minute, hein, Franck Jacquet.
Écoutez, je traite tous les mails de mon bureau, donc au fil de la journée, mail professionnel, mail mairie, tous les lundis soirs, c'est une réunion avec l'ensemble des adjoints et les conseillers qui souhaitent participer, un point de la semaine, un point des sujets à venir, et sur le plan familial, il n'y a pas trop de soucis, et je prends mon action comme un peu un club service ou une mission pour le bien commun. Voilà.
Pour terminer, malgré toutes les difficultés, on a l'impression quand même, Franck Jacquet, que vous êtes un maire heureux. Vous aimez votre commune, belle commune à quelques kilomètres de Reims. On invite, bon, pas trop parce que vous ne pouvez pas être envahi, mais les Rémois à venir vous rendre visite. Vous êtes un maire heureux, Franck Jacquet, finalement.
Oui, très heureux. Écoutez, ça serait pas digne de ne pas être heureux. La commune est très agréable, elle est connue, elle est réputée, elle est extrêmement jolie. Donc c'est vrai qu'on est plutôt très fiers de notre commune et très fiers de notre action au quotidien.
En tout cas, on vous remercie beaucoup, monsieur le maire, Franck Jacquet, maire de Chenay, d'avoir été avec nous. Et puis, à l'occasion, régulièrement d'ailleurs, on aura sans doute l'occasion de reparler de Chenay. N'hésitez pas d'ailleurs de votre côté à nous recontacter. Nous aussi, on vous recontactera pour avoir un suivi de cette belle émission. Merci Franck Jacquet d'avoir été avec nous.
Et merci à vous également, Jean-Pierre, d'être là avec nous, 18h28. Le journal régional, c'est pas tout de suite, mais on a des invités qui seront là en deuxième partie
absolument
de l'émission.
On va retrouver, donc, on vous l'avait dit tout à l'heure, mais on peut le redire, Benoît Carrier, le maire de Beaucourt. Et après-demain, ce sera Nadine Poulain, qui est la maire de Jonchelay-sur-Vair.
D'ailleurs, pour être complet, c'est au Beaucourt, Vauzelles, Benoît Carrier.
Au Beaucourt, Vauzelles, vous avez raison. Il faut donner les deux titres, ces deux communes qui se sont rapprochées.
Et en deuxième partie d'émission, ça c'est pour aujourd'hui, Laurent Devis sera avec nous pour le parler d'une crèche vivante à Charleville-Mézières. Le rendez-vous, on en parlait tout à l'heure, c'est samedi en l'église Saint-Remy, on en parlera après le journal. Mais après le journal, on aura aussi Fernand Tavares qui sera là.
Et qui est là tout de suite, juste avant le journal, Fernand, vous allez aborder ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat. On allait dire une tension permanente en ce moment.
Ah, c'est une tension permanente, avec des mots parfois très durs, repris de volée ou pas par la Première ministre. Un exemple, Éric Ciotti, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, parlant du résultat du vote sur l'immigration, a dit ceci, je cite, « C'est une sanction du mépris du ministre de l'Intérieur ». Il faut quand même pas oublier que le ministre de l'Intérieur était un LR puis Rédur avant. Vous voyez un peu le travail. Cet après-midi, au Sénat, le président du groupe socialiste, M. Kanner, qui est un ancien ministre, a dit la chose suivante, « Cette affaire-là, ça sent le fiasco, c'est une crise institutionnelle, abandonner purement et simplement ce projet de loi. » Ce à quoi a répondu la Première ministre, qui est une de ses anciennes amies politiques, « Vous n'avez pas honte, entre guillemets, de dire cela, vous laissez le Parti socialiste se dissoudre au sein de la NUPES, vous êtes un satellite de la France insoumise. La première ministre disant ça au président du groupe socialiste du Sénat. Vous voyez un petit peu où on en est. Bon, une fois qu'on a dit cela, on sait que maintenant, la prochaine étape, qui va avoir lieu dans quelques heures, ça sera la fameuse commission mixte paritaire pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais ce qui m'a frappé ces jours derniers, comme certainement l'ensemble des auditeurs, c'est de savoir pourquoi il a manqué 5 voix à la majorité relative pour faire passer ce projet de loi. Quand on regarde ce chiffre, j'ai noté la chose suivante. Il manquait exactement, il y a 9 députés qui n'ont pas pris part au vote. 9, alors qu'il leur manquait 5 voix. C'est pas 9 députés de l'opposition, c'est 9 députés qui, normalement, votent avec le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 d'entre eux ont dit que, de toute façon, ils auraient voté contre. L'un l'a fait. Mais les 7 autres, ben, ils n'étaient pas là. Certains, alors ça, c'est vraiment cocasse.
Ils vont faire remonter les bretelles.
Il y en a même un qui a dit, mais je ne comprends pas, j'avais donné ma délégation de vote à quelqu'un qui n'a pas été prise en compte. Donc voilà.
On va avoir tout ça juste après le journal, Fernand.
Tout à fait.
Parce que c'est un sujet, bien sûr, que vous avez connu, parce que dans la vie parlementaire, il y a souvent
c'est pas la première
ce
fois,
genre
je raconterai
de questions.
Exactement.
En attendant, la pendule nous dit qu'il est 18h31, l'heure de retrouver le journal régional, présenté en direct comme tous les soirs par Alexis Claudrette.
Avec les titres de ce mercredi 13 décembre 2023, à Châlons-en-Champagne, 100 de jeunes seront sensibilisés chaque année avec la fresque du climat que l'on vous présente. Nouvelle projection d'un film documentaire dans le cadre des conférences Altaïr, demain à la Maison Saint-Sixte de Reims. C'est le signé conférencier Olivier Berthelot qui présentera son film « Cappadoce ».
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ouvert depuis plusieurs semaines déjà dans la salle paroissiale Saint-Louis, 2 rue du Chanoine Camus à Reims, la Cantina Louis est un espace de restauration réservé aux familles avec enfants primo-arrivants qui distribue aux bénéficiaires des repas chauds entre midi et 13h du lundi au vendredi. Cet espace a été inauguré hier. Parmi 17 familles éligibles, 13 sont venues recevoir déjà 591 repas après 7 semaines de fonctionnement. Créée en 2018, la fresque du climat figure parmi les actions déployées par la jeune chambre économique de Châlons-Aglo. Noémie Brisson, présidente de cette JCE, nous explique le concept et son objectif.
C'est un jeu de cartes qui a été inventé par l'association Fresque du Climat, où l'objectif, en fait, c'est de créer une fresque grâce à ces cartes en partant des causes et en allant jusqu'aux conséquences du changement climatique. L'objectif, c'est de sensibiliser le grand public, à la base, le grand public, aux causes et aux conséquences du changement climatique à travers ce jeu.
L'après l'atelier du 9 septembre dernier à la foire de Châlons, dont plus d'une 30 de personnes ont répondu favorablement à l'initiative, la JCE veut poursuivre l'action en la transmettant auprès d'une structure. Le 5 décembre, une convention de transmission de l'action en faveur des jeunes, suivie par la mission locale de Châlons, a été signée. Karine Paroissien, directrice de la mission locale, nous explique l'intérêt de cette convention.
Alors, la transmission déjà s'est procédée rien qu'une rencontre entre Madame Brisson et moi-même pour évoquer cette fresque du climat. Et ensuite, nous avons associé une de mes collaboratrices pour savoir si elle était intéressée pour elle-même ensuite être formée et animer cette fresque du climat. La sensibilisation de la mission locale au sujet, c'était évident, de moi-même encore plus parce que j'étais formée. La transmission, elle s'est faite sans même essayer de me convaincre. Il y a un avenir qui fait peur, mais qui n'est pas forcément, c'est pas une fatalité. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut transmettre à travers cette fresque. Alors, les jeunes de la mission locale seront des porteurs, effectivement, parce que ils ont une idée très préconçue ou très arrêtée. Ouvrir, on va dire, les consciences et ensuite le champ des possibles à leur niveau. Parce que c'est ça aussi, c'est à leur niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et c'est évident qu'ils vont trouver les moyens de faire.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. La structure organisera un atelier de 2h30 par mois pour 100 de jeunes par an. À noter qu'il existe des cartes fresques du climat pour les plus jeunes. Ce mercredi a été signé les contrats de sécurité Petite Ville de demain par les communes de Monthermé, Nouzonville, Signy-le-Petit et Vrigne-aux-Bois et le préfet des Ardennes Alain Buquet. Ce volet sécurité marque la volonté partagée de l'État et des communes signataires de se mobiliser conjointement pour garantir garantir la sécurité et la tranquillité de la population des territoires concernés par des actions de prévention, de protection des habitants et un partenariat renforcé entre les mairies et les brigades de proximité. Après avoir fait leur retour en novembre, les ciné-conférences Altaïr s'enchaînent à la Maison Saint-Sixte de Reims pour cette saison 2023-2024. Demain, jeudi, c'est le ciné-conférencier Olivier Berthelot qui présentera son film Cappadoce, comme nous dirait Fabrice Gironnet, qui nous a repris le volet, qui écoute attentivement les chroniques géographie de Claude Ruiz.
Mais c'est parce que vous avez voulu prendre l'accent
italien, mais a priori on va en Turquie.
Bah c'est oui, parce que oui, même dans la Bible on retrouve la Cappadoce.
Mais nous partons donc en Cappadoce avec le correspondant local Thierry Pinault qui commente pour Altaïr.
Alors la Cappadoce, c'est une région historique de Turquie située au centre de celle-ci. À l'est, il y a la péninsule anatolienne. Alors la plus grande ville est Kayseri, ou Césarée en français, mais on prononce Kayseri, hein, Césarée en français. Plusieurs sites de Cappadoce sont inscrits au patrimoine mondial depuis 1985 sous le nom de Parc National de Görem, ou Gorim, ça dépend si on prononce à la turque ou à la française. Alors vous y verrez dans ce film d'extraordinaires paysages façonnés par l'érosion. Vous verrez des pitons dressés, des cheminées de fées, de mystérieux vallons colorés. Ici ont vécu longtemps des chrétiens qui ont laissé de magnifiques vestiges dans des discrètes chapelles troglodytes. Vous y verrez également des pilotes de montgolfières, des femmes céramistes, des potiers, des bergers, des poètes et des musiciens.
Deux projections de Cappadoce sont organisées à 14h15 et 18h30 demain concernant les modalités La Bonne Surprise, lancée en novembre pour les auditeurs de RCF et toujours d'actualité en décembre.
Alors les billets peuvent se prendre sur place, comme quand on va au cinéma, hein, vous venez 10-15 minutes avant et vous achetez votre billet en espèces ou par chèque, comme vous voulez. Vous pouvez les réserver aussi sur internet, sur le site cdmreims@yahoo.fr ou également par SMS au 06 71 91 97 72. Un bonus pour les auditeurs de RCF, hein, je dis bien pour les auditeurs de RCF, une place achetée à 9 ou 10 euros égale une place offerte sur les sujets de novembre et décembre.
Des propos recueillis dans l'émission Tourisme en Champagne, présentée par notre producteur Michel Fek. Attention, l'entrée à ces conférences se fait par l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, au 6 rue du Lieutenant Erdouin. Sport, football, le stade de Reims tremble. Jean-Pierre, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la nouvelle.
Mais l'entraîneur, que va-t-il devenir?
Effectivement, c'est une information sortie par nos confrères de l'équipe hier soir. Son entraîneur vedette, Will Steele, pourrait filer à l'anglaise pour rejoindre Sunderland, club de deuxième division en Angleterre, souhaitant profiter de sa cote de popularité et inquiet de voir les Rouges et Blancs être défaussés de leurs meilleurs joueurs cet hiver pendant la Coupe d'Asie et pendant la Coupe d'Afrique des Nations, le tacticien belge rêve de nouveaux horizons, peut-être aussi un moyen de mettre un coup de pression sur la direction stadiste pour recruter davantage d'éléments à faire à suivre donc. Et Reims Satan voit complètement rouge puisque le club a appris par mail cet après-midi avoir été disqualifié de la Coupe de France de football pour avoir inscrit sur la feuille de match un joueur suspendu qui n'est cependant pas entrer en jeu. Le club a 48 heures pour faire appel. C'est dommage pour Reims-Saint-Anne qui avait pourtant réussi à éliminer Dunkerque lors de la séance de tir au but ce week-end. Là aussi, affaire à suivre. Côté parquet, c'est parti pour une semaine à 3 matchs identiques pour les Flammes Carolo. Elles reçoivent la Roche-Vendée ce soir à 20h en 16e de finale aller de l'Eurocoupe féminine. Le match retour est prévu dans une semaine. Entre-temps, il y aura samedi la 11e journée de Ligue féminine entre ces deux mêmes équipes. Et puis une excellente nouvelle venue de la glace, Laurine Schild, patineuse artistique, licenciée au club de patinage artistique de Reims, a été sacrée championne de France élite ce mercredi après-midi en Isère. Félicitations à elle pour cette très belle performance. 18h39, place à la météo ce mercredi, c'est avec Kylian Janot. Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce jeudi, Kylian?
Eh bien alors, pour demain, la météo s'améliorera. Un temps nuageux sera présent dans la région. Les températures affichées resteront constantes tout au long de la journée. Il fera 7 degrés dans les Ardennes et 8 degrés dans la Marne et dans l'Aube. Malheureusement, des averses sont attendues pour les Ardennais en fin de journée. Pour les Marnais et les Aubois, ce sera des éclaircies pour cette soirée. Faites attention aux alentours de Charleville-Mézières et de la brume est attendue en fin de journée. Demain, nous souhaitons une bonne fête à toutes les Odiles.
Merci Kylian, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF. Dans quelques minutes, on vous emmène à Charleville-Mézières pour présenter une crèche vivante avec Laurent Devis. Mais tout de suite, c'est Fernand Tavares qui est l'invité de Jean-Pierre Benoît pour décrypter l'actualité politique au niveau national.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Merci Alexis, 18h40 avec vous Fernand Tavares. Vous connaissez bien la vie parlementaire, elle est sur la sellette dans l'actualité. Hier à l'Assemblée nationale, aujourd'hui au Sénat, il y a eu quelques empoignades. Évidemment, c'est pas la tasse de thé d'RCF, on préfère plutôt les combats pacifiques, hein, où il y a des échanges d'idées. Mais là, c'est pas tout à fait le cas, Fernand. Hier à l'Assemblée, aujourd'hui au Sénat.
Ah, évidemment, à l'Assemblée nationale, les députés, que ce soit de gauche ou ce soit des républicains, que ce soit évidemment le Rassemblement national, s'en sont donnés à cœur joie pour dire au gouvernement « arrêtez tout, ça n'est pas la peine de continuer » ou alors on remet tous les compteurs à zéro.
Bon. Il faut rappeler qu'il y avait eu le vote d'une motion de rejet, c'était lundi soir, le texte a donc été rejeté, éjecté, comme on dit. Et que se passe-t-il ? Donc maintenant, on le sait, mais vous allez nous le rappeler, nous rafraîchir la mémoire, Fernand.
Alors d'abord, cette motion de rejet, à quoi a-t-elle tenu ? Elle a tenu à 5 voix qu'il a manqué, donc, au gouvernement. Ces 5 voix, où étaient-elles ? Alors c'est un mystère, parce que quand on regarde aujourd'hui dans le détail, en réalité, il y a eu 7 ou 8 députés qui ne se sont pas prononcés. Pourquoi ? Un a dit « je vote contre ». L'autre a dit « de toute façon, je ne me serais pas prononcé ». Mais alors, il y avait des absents. Et là, c'est un problème parce que, dans ma mémoire, je me suis dit « mais comment se fait-il que les absents n'ont pas donné leur délégation de vote à un collègue ? C'est tout à fait possible ». L'un d'entre eux a dit « je l'avais donné », elle n'a pas été prise en compte. Les autres étaient en déplacement, ne pensant à aucun moment que le gouvernement allait être mis en minorité. Sinon, puisqu'il manquait 5 voix, si on fait le compte, si tout le monde avait été présent, eh bien, le texte de loi aurait été voté. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi ? C'est que le président de la République dit à la Première ministre et dit à M. Darmanin « débrouillez-vous, vous allez reprendre le texte, on va faire une commission mixte paritaire qui va avoir lieu là, d'ici la fin de la semaine. »
Sur la base du texte du Sénat.
Sur la base du texte du Sénat, mais peut-être pas aussi simplement que ça. Il va falloir pouvoir satisfaire.
Parce que dans cette commission paritaire, il y a des gens très différents.
Oui, il y a tous les groupes. Hein. C'est 7 députés et 7 sénateurs, proportionnellement au nombre de députés dans chaque groupe. Donc, de toute façon, au total, la majorité, entre guillemets, sera présente. Tout va savoir dans le contenu ce qui va se passer. Est-ce qu'on revient sur le texte pur et dur du Sénat ? Ça va faire tousser en particulier les députés du groupe Les Républicains. Éric Ciotti n'en veut à aucun prix. Donc il va falloir trouver un terrain d'entente. Et c'est l'ordre qui a été donné au président de la République, à la Première ministre. Alors d'ailleurs, ce que j'ai observé aujourd'hui au Sénat, la Première ministre a répondu à plusieurs groupes, notamment au président du groupe socialiste, qui lui a littéralement, si j'ose dire, volé dans les plumes, en disant « comment avez-vous pu faire cela ? C'est inadmissible. Rejeter, abandonner le texte, abandonner ce projet de loi sur l'immigration. » Et Mme Borne était une amie politique de M. Kanner, président du groupe socialiste du Sénat. Au lieu de s'en prendre au groupe Les Républicains du Sénat, elle a fait abstraction des Républicains. Alors évidemment, on peut penser à de la stratégie. Et elle a reproché à son ami socialiste d'antan de faire le lit de la France insoumise et de la NUPES. Voilà un petit peu pour le climat.
Alors, un climat quand même assez lourd,
oui.
Mais les questions qu'on pose, mais vous avez les réponses, est-ce qu'on s'achemine vers finalement un accord au sein de cette commission mixte paritaire ? Et est-ce que le président de la République a annoncé ses intentions vis-à-vis du 49-3 ou d'une éventuelle dissolution ?
Ah oui, parce que comme je vous l'avais déjà expliqué, lorsqu'il s'agit d'un projet de loi ordinaire, en dehors des lois sur le budget, où on peut mettre autant de 49.3 qu'on veut, une seule fois par session parlementaire, on peut ressortir un 49.3 sur toute autre chose, y compris sur cette loi contre l'immigration. On aurait pu sortir un 49.3. Vu le climat actuel, Si jamais c'était ça, ça serait encore un bouillonnement terrible à l'Assemblée nationale, et puis peut-être même au-delà, il y aurait des manifestations.
Donc le président de la République, il souhaite peut-être que ça s'arrange, donc ils vont mettre peut-être de l'eau dans leur vin.
Le président de la République a dit pas de 49-3. Ou ça passe, ou alors je retire purement et simplement ce projet de loi. Ça va arranger certains, mais ça n'arrangera pas grand monde. Pourquoi ? Parce que aussi bien même au Rassemblement national que chez les Républicains, on, même si on ne le dit pas ouvertement, on observe que dans ce projet de loi, quand même, il y a des réponses pour lutter contre l'immigration clandestine, pour lutter contre les passeurs clandestins, pour lutter contre ceux qui ont été condamnés et qui arrivent en France sous des prétextes fallacieux. Bref, il y a quand même des choses. Simplement, ce qui actuellement est un point difficile, c'est cette fameuse aide médicale d'État, l'AE2, ou l'aide, une autre aide médicale. Là, il y a un problème parce que, quand on regarde dans cette affaire, in fine, il y aura obligatoirement, même si la loi est votée, saisine du Conseil constitutionnel qui peut rejeter une partie de ce qui aura été voté par le Parlement. Et sur les aides médicales d'État ou l'aide médicale d'urgence, ça peut se discuter.
D'ailleurs, la conférence des évêques de France avait pris position sur cette question et souhaitait que l'AME reste quand même en application.
Donc, c'est un sujet qui va être débattu.
C'est un sujet qui va être débattu.
Ah oui, puis il va falloir y passer. Et puis alors, dernière chose, c'est que la prochaine fois qu'il y aura un vote, et il y aura un nouveau vote à l'Assemblée nationale, je crois que c'est au début de la semaine prochaine, lundi, ça passe ou ça casse. Si le vote est à nouveau défavorable, c'est terminé, la loi va au tapis et on n'en parle plus.
Alors Fernand, un petit clin d'œil, parce que vous connaissez bien la vie parlementaire. On s'est acharné dans beaucoup de médias sur M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui aurait téléphoné à un certain nombre de députés en leur promettant plusieurs choses pour qu'ils votent dans le bon sens. Mais c'est une pratique que peut-être que vous avez déjà vue.
Alors moi, j'ai pas la preuve que la chose a été faite, mais je me souviens très bien que... En d'autres temps, il y avait une majorité qui était très gauche. Je crois que c'était sous Michel Rocard. Il y avait une majorité à 3 députés près. Et effectivement, sur un projet de loi important, ce qui s'est dit, j'en ai pas la preuve, mais je crois que ça a été une certaine réalité, il lui manquait 3 voix. Et donc, on a dit à ce moment-là, oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a des démarches qui sont en cours. On est en train d'essayer de sensibiliser les uns et les autres. Et il y a eu 3 députés, effectivement, d'outre-mer, qui ont négocié en quelque sorte leur soutien.
Mais ils sont malins, finalement.
Ils sont malins parce que, outre-mer, c'est vrai qu'ils n'avaient pas grand-chose à l'époque.
Il y en a un qui a dit,
dans la Guyane, nous n'avons pas d'école. L'autre a dit à la Martinique, il y a une route qui va pas. L'autre a dit, moi, j'ai pas de salle des fêtes, aidez-nous, etc.
Ils ont tout obtenu.
Ce qui s'est dit à l'époque, c'est qu'ils avaient obtenu une certaine satisfaction moyennant leur soutien. Bon. C'est de bonne guerre, ça peut arriver. Bon, c'est pas un scandale d'État.
Ça arrive souvent à l'Assemblée nationale.
Ça arrive de temps en temps, parfois.
Souvent, peut-être pas souvent, mais
quand la majorité est très courte ou qu'il manque quelques voix.
Simplement un mot pour parler un peu d'un autre sujet. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Les zones inondées en France, c'est un sujet de préoccupation qui est évoqué à l'Assemblée aujourd'hui.
Ça a été à l'Assemblée hier et aujourd'hui. Très très fort au Sénat parce que ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de régions de France qui sont concernées et on s'aperçoit une fois de plus qu'il y a des dégâts très importants, qu'une fois de plus les assurances qui sont sollicitées pour la énième fois commencent à dire on va pas s'en sortir, les cotisations vont augmenter, on ne peut pas répondre à tout le monde et une fois de plus, comme je vous l'ai dit à ce micro il y a quelques semaines, certains reçoivent déjà aujourd'hui parce qu'ils ont été inondés pour la deuxième, troisième fois, une lettre de leurs assurances qui disent « on ne peut plus vous soutenir ». La prochaine fois, eh bien, on supprime votre assurance, allez vous adresser ailleurs parce que ça nous coûte trop cher.
Alors justement, sur notre antenne, on a beaucoup parlé la semaine dernière de laïcité. C'était le 8 décembre, à la veille de la journée, le 9 décembre, qui était le 118e anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Mais au même moment, le grand rabbin était à l'Élysée pour Hanouka, la fête de la lumière juive. Il allumait les bougies à l'Élysée. Là, c'est un peu de la provocation, mais ça, c'était vraiment voulu par le président de la République.
Bah, vous voyez, aujourd'hui, au Sénat, il y a eu 2 questions là-dessus. Une question de la gauche, Parti Socialiste, et une question d'un sénateur, les Républicains, qui sont tous les deux allés dans le même sens, reprochant au président de la République d'avoir autorisé cette manifestation au sein de l'Élysée. Il y en a un qui a dit « mais jamais le général de Gaulle n'aurait fait ça ». L'autre a répondu « mais attendez, du temps du général de Gaulle, il avait fait installer une petite chapelle ». Alors les uns ont dit « mais non, mais le général de Gaulle, lui, c'était uniquement pour son affaire privée et rien d'autre. Il n'y avait personne d'autre.
Bon, mais est-ce que c'est pas quand même Emmanuel Macron ne fait pas ça par hasard? Peut-être a-t-il été embarqué par le rabbin Ingorcia qui a quand même beaucoup de savoir-faire. Mais le président de la République n'ignore pas qu'il n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme.
Voilà,
et que alors... c'est peut-être une manière de dire à la communauté juive de France, mais vous voyez... J'ai pas été manifesté, mais enfin, je suis quand même pas loin de vous.
Voilà. Alors, les purs et durs de la laïcité disent, il n'aurait pas dû faire ça au nom de la laïcité. D'autres disent, oui, étant donné ce qui arrive au peuple juif et aux juifs de France qui sont à nouveau persécutés comme du temps de 40, 45 et la fin des années 50, donc c'est normal qu'ils aient un peu le soutien. Certains ont répondu, comme vous venez de le dire, ben, le président n'avait qu'à aller à la manifestation.
Merci en tout cas Fernand Tavares pour nous avoir éclairé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur cette actualité.
Un mot sur le conflit israélo-palestinien. Désormais, le gouvernement parle un peu comme une majorité de parlementaires en disant il faut que ça s'arrête parce que maintenant on reproche à Israël d'aller beaucoup trop loin et de commettre des crimes d'État.
Merci Fernand Tavares, à très bientôt, la semaine prochaine on vous retrouvera. Bonne soirée.
Le 18-19 sur RCF.
Et vous Jean-Pierre, on ne va pas attendre la semaine prochaine pour vous retrouver puisqu'on vous met de nouveau sur le grill. On vous avait promis hier de présenter une nouvelle crèche vivante, on était parti dans la Marne. Eh bien cette fois, on part dans la ville-préfecture des Ardennes, à Charleville-Mézières, avec Laurent Devie. Et encore une fois Jean-Pierre, c'est vous qui vous en chargez, Laurent Devie qui est en ligne avec nous.
Et Laurent Devie, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous venez nous parler d'une crèche vivante qui va être mise en place à Charleville-Mézières. Ça rentre bien sûr dans l'histoire de la crèche, hein?
Oui, complètement, parce que vous savez Jean-Pierre que nous fêtons le 800e anniversaire de la création de la crèche vivante par Saint-François d'Assise en 1223. À Charleville, cette crèche vivante, cette tradition a été reprise depuis quelques années. C'est Hélène Pio qui avait mis en place l'idée et donc dans la tradition franciscaine, eh bien notre crèche va déambuler, elle sera en mouvement et puis elle ira se stabiliser dans l'église Saint-Remi où les gens pourront venir assister, voir. Et dans cette tradition de François qui disait « je veux le voir de mes yeux de chair », eh bien nous allons proposer à tous ceux qui passeront eh bien de voir, de goûter, même un chocolat sera offert, et d'écouter parce qu'il y aura aussi des scénettes de théâtre qui permettront d'entendre finalement des choses comme à l'époque de Jésus.
Alors pour les auditrices et les auditeurs, on a fait un oubli quand même majeur, c'est de dire quand ça a lieu et à quelle heure on peut se joindre évidemment à cette crèche vivante.
Oui, complètement. Alors, c'est donc le 16 décembre. Ça
c'est
sera
samedi.
Samedi 16 décembre, entre 15h et 18h. Alors, à partir de 15h, on partira de la statue de Charles de Gonzague. On va déambuler dans la rue piétonne, rue de la République à Charleville. On passe par la place Ducale et on arrivera ensuite à l'église Saint-Remi vers 16h. Où là, il y a tout un programme. Donc, il y aura des chants de Noël qui seront entonnés par une chorale de paroissiens. Le chocolat offert par les paroissiens aussi, et puis des scénettes de théâtre jouées par la troupe de théâtre avant-scène de laquelle je fais partie.
Alors cela engage bien sûr en premier lieu l'espace missionnaire de Charleville-Mézières. Tout le monde s'est quand même impliqué dans cette affaire, parce que c'est quand même pour les enfants, pour les familles. Je crois d'ailleurs que les associations familiales catholiques sont membres aussi de cette opération, d'une certaine façon.
Complètement, et sans elles, ça aurait pas pu se faire. Donc à la responsabilité, en chapeautant toutes ces choses-là, il y a Anne-Laure Brichet, il y a Sixtine de la Laurentie, il y a toute une équipe qui gère la communication, l'organisation, l'AFC qui finance les choses, notamment par exemple la venue d'une bergère qui viendra avec ses moutons, le financement aussi de la troupe de théâtre avant-scène qui vient et qui pourra jouer des pièces donc d'Alain Combes. Et tout ça aussi, surtout, je voudrais rendre hommage aussi à tout le travail énorme qu'a fait Bernadette Gillet au niveau des costumes, au niveau des décors. Bref, il y a toute une équipe mobilisée, Olivier Brichet aussi avec... la chorale Bénédicte Leclésio, enfin il y a pas mal de monde derrière, oui.
Donc ça veut dire que c'est dans cet espace, et puis ensuite on entonne des chants traditionnels de Noël, et puis cette crèche, elle disparaît ou elle reviendra dans l'église Saint-Remi par la suite?
Non, comme c'est une crèche vivante,
oui.
Donc ensuite il y a la crèche statique avec les fantômes.
Oui, elle sera là, la crèche statique.
Oui. Mais nous autres, nous commençons, j'ai oublié de dire ça, donc il avait été souligné dès le début de l'entrevue, donc dès 14h15, avec le Père Baptiste, il y aura un envoi en mission, parce que c'est effectivement l'occasion d'un événement missionnaire. On se donne rendez-vous à l'église Sarmi à 14h15, des lumignons seront distribués, des cartes de Noël, des petits signets, et des paroissiens qui sont là, parce que tout le monde sera acteur dans la rue, ce sera l'occasion aussi, autour de cette crèche qui va déambuler, et bien de discuter avec les gens de façon décontractée, et en même temps, ça serait une occasion pour nous tous d'évangéliser.
Alors une question, si des auditrices et des auditeurs de Charleville-Mézières ou même de Reims, s'ils veulent aller au marché de Noël aussi de la place du Cal, peuvent bien sûr venir s'associer, venir à partir de 14h30, 15h à la statue de Charles de Gonzague, vous accompagner, c'est possible?
Ah, tout à fait, oui, de déambuler avec nous, etc. Donc nous serons habillés dans des costumes d'époque.
Vous-même, Laurent, vous êtes habillé en quoi? Vous êtes normal 2023 ou vous êtes...
Non, je serai effectivement, on va dévoiler un petit peu, parce que comme je suis acteur de la troupe de théâtre avant scène, je serai moi-même déguisé en chamelier.
Hein,
la pièce que je jouerai, donc qui aura lieu à 17h30, s'appelle Le récit d'un chamelier.
Grâce aux associations familiales catholiques Les Moutons, mais vous devez quand même pas emmener chameau, rassurez-vous.
Alors, c'est un chameau que Bernadette Gillet a confectionné, donc en carton, mais qui est un des éléments de la scénette que je vais jouer. Voilà.
Alors justement, donc, il y a cette déambulation, il y a l'arrivée à l'église Saint-Remy, il y avait au préalable l'envoi avec le Père Baptiste bienvenu dans l'espace missionnaire, mais il y a aussi des représentations de la troupe de théâtre avant-scène qui va interpréter des scénettes. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors, il y a quelques semaines, d'ailleurs, sur les ondes de RCF, vous nous aviez permis donc d'en parler. C'est une troupe toute récente qui vient d'être créée au mois d'octobre. Et donc, ça sera l'occasion de notre première prestation. On va jouer trois scénettes. Alors, donc, une à 16h30, une autre à 17h et une autre à 17h30. C'est donc trois scénettes différentes. Ce sont des scénettes écrites par Alain Combes, un auteur, et qui a ce côté génial et intéressant que de contextualiser l'évangile. C'est-à-dire que ça n'est pas une transcription des évangiles, mais plutôt un contexte. Alors pour la première scénette par exemple, ce sera les neveux de Joseph. Donc c'est deux neveux qui s'inquiètent parce que leur tonton a des soucis. Alors l'un des neveux dit bah, c'est normal, il va bientôt se marier, il a beaucoup de choses à s'occuper. Et puis l'autre dit oui, quand ça a commencé avant le début, c'est problématique. De là, la chose va se dénouer puisqu'il paraît aussi qu'un ange est apparu à Joseph, etc. L'autre scénette que je jouerai, le récit du chamelier. C'est un chamelier donc qui transporte les rois mages et on voit tout de suite dès le départ que eh bien ce petit enfant qui vient de naître dans l'étable est déjà un signe de contradiction et déjà très gênant. Et il y a une dernière scénette, les patrons des bergers. Et là, c'est donc les patrons qui s'inquiètent parce que leurs bergers chantent des chants d'illuminés parce qu'ils auraient une apparition et les patrons s'inquiètent de leur réputation. Donc on voit dans ces petites scénettes de façon un peu humoristique, mais le côté déjà un peu gênant de l'enfant qui vient.
Donc ça veut dire, on peut aller déambuler à partir de 14h30, 15h à la statue Gonzague, descendre la rue Piétonne, arriver place du Cal, aller jusqu'à l'église Saint-Remy. Mais auparavant, on a dit, et il y avait un appel à l'espace missionnaire. Et ensuite, assister à ce théâtre, c'est un programme pour toute une après-midi, par exemple, pour des enfants, pour des familles.
Ah, complètement. Et là, encore une fois, je vous disais donc en début de l'interview, dans cet esprit de Saint François, c'est vraiment cette idée de rendre la venue de l'enfant de Noël sensible, charnelle, perceptible, puisqu'on pourra encore une fois voir, entendre des chants de Noël, goûter du chocolat, se réchauffer. Enfin voilà, donc c'est essayer de se rendre proche et surtout de le rendre proche, lui, le Christ qui vient parmi nous.
C'est rendre, vous le savez bien, Laurent, mieux que moi, dans cet espace missionnaire de Charleville-Mézières, proximité avec tous les Ardennaises, les Ardennais, tous ceux qui viennent, parce que la fête de Noël, elle est pour tous. Et là, c'est quelque chose de formidable, quoi, avec cette crèche vivante qui déambule. Il y a les yeux illuminés des enfants et des parents, hein, c'est formidable, ça.
C'est ça, et tout ça se passe aussi, c'est pas hors monde, enfin on ne fait pas cette crèche comme quelque chose qui est à côté, on passe par la place du Cal, il faut évidemment aussi profiter du beau marché de Noël qui est à Charleville, qui est magnifique. Remercier aussi la municipalité de Charleville qui soutient, qui nous a aidé donc à éditer donc des flyers et des affiches. Donc tout cela se fait en bonne intelligence avec la municipalité de Charleville-Mézières. Et puis voilà, pour les plus motivés, comme je le disais à des amis, le soir on peut terminer en faisant la corrida dans Charleville, qui est
un
petit peu folle et rigolote. Et voilà, on n'est pas hors monde, mais bien inscrit dans ce monde pour témoigner de ce beau moment de Noël.
Merci Laurent Devy d'avoir été avec nous. Rendez-vous samedi 16 décembre.
Et voilà, rendez-vous est pris. Quand on parle de Charleville-Mézières, forcément pour moi, le Carolo-Massérien de naissance, ça m'enchante, ça donne envie d'aller se balader dans la cité Charles de Gonzague, d'aller prendre sa place ducale, les rues adjacentes, et puis de profiter à la fois de cette crèche vivante qui va parader, comme le disait Jean-Pierre et le Laurent Deville il y a quelques instants, entre la place ducale et l'église Saint-Rémy de Charleville-Mézières, et puis aussi d'être à l'intérieur de l'église, voilà, voir cette crèche s'animer, ça fait toujours du bien. Merci Kylian d'être resté avec nous.
Et bah de rien, Alexis.
On se retrouve demain 18h10 pour un nouveau magazine régional. C'était Fabrice Gironnet à la mise en onde ce soir, qui sera là aussi d'ailleurs demain s'il le veut bien. Fabrice, vous avez l'air d'accepter, donc vous serez là.
Il n'y a pas de problème. Le temps de monter.
C'est mieux pour nos auditeurs, quoi, on va dire. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui prend le relais. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.